Et gloire du Messie dans les psaumes. Cette présentation comprend donc deux parties. Hier, j'ai présenté la première partie avec une introduction, puis aussi l'incarnation du Messie et la vie du Messie. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie et nous allons continuer ce cheminement merveilleux. Le Seigneur a vécu sur la terre, mais le Seigneur aussi a donné sa vie. Mais tout ne s'arrête pas là, nous allons le découvrir ensemble. Donc aujourd'hui, deux thèmes principaux, sa passion et aussi son règne, avant que je donne une conclusion générale. La vie du Seigneur, c'est son ministère, mais dans un sens, sa vie, c'est aussi sa mort. Car il était venu pour accomplir une œuvre, il était à l'étroit jusqu'à ce que cette œuvre soit accomplie. Nous avons de très beaux cantiques, j'en ai noté deux, qui parlent de ce cheminement. Dans sa mort comme dans sa vie, il accomplissait ton plaisir, le plaisir de Dieu, étant venu grâce infinie pour servir, souffrir et mourir. Voilà pourquoi notre Seigneur Jésus est venu. Donc nous avons considéré hier la vie du Seigneur Jésus depuis sa naissance jusqu'au moment où, dans le proche lointain, la croix se profilait. Nous allons maintenant arriver à la dernière semaine avant le sacrifice suprême du Seigneur. Vous avez ici une représentation de Jérusalem à l'époque. Et il nous est dit en Luc 9, 51, or il arriva, comme les jours de son assomption s'accomplissaient, qu'il dressa sa face résolument pour aller à Jérusalem. Il a devant lui l'œuvre qu'il doit accomplir pour la gloire de Dieu et pour notre salut. Jésus donc s'avance. Il s'avance vers cette ville qui lapide les prophètes et qui rejette et qui met à mort ceux qui lui sont envoyés. Il le sait. Cette ville, c'est sa ville. C'est la ville du grand roi, c'est une ville qu'il aime. Jésus va arriver depuis le nord, il arrive par l'est, par Jéricho, il a rencontré Bartimée l'aveugle, et il monte à Béthanie avant d'arriver à Jérusalem. Et nous savons qu'il va entrer dans Jérusalem, monter sur un âne, réalisant la prophétie de Zacharie 9, « Réjouis-toi avec transport, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut humble, et monté sur un âne, et sur un poulain, le petit d'une ânesse. » Et là, se passe quelque chose d'extraordinaire, les gens l'ovationnent, les gens prennent des palmes, les gens mettent leurs vêtements sur son chemin et disent ce qui est marqué dans le psaume 118, « Ô Éternel, sauve, je te prie. Éternel, je te prie, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Béni soit le Messie. » Jésus est salué comme le Messie, comme l'homme choisi par Dieu pour instaurer le royaume sur la terre. Et savez-vous ce que fait le roi sur son âne? Pas tout le monde a réalisé cela. On pense à ses acclamations, à cette réception royale, quoi qu'il arrive de façon humble, mais pas tout le monde a remarqué que pendant que la foule l'ovationne, le roi sur son âne pleure. Si tu eusses connu, voyant Jérusalem, il pleura sur elle. Si tu eusses connu, en cette tienne journée, des choses qui appartiennent à ta paix. Le roi pleure. Parce que derrière cette réception momentanée, émotionnelle, il sait ce qu'il y a derrière. Peut-être que c'est la même foule qui dira quelques jours plus tard, ôte, ôte, crucifie-le. Jésus entre dans le temple. Il nous est dit qu'il jeta son regard partout sur lui. Et après, il sort. Mais, qu'est-ce qu'il a fait en entrant dans le temple? Il rencontre les changeurs et il renverse leur table. Et le conflit est à ce moment-là ouvert entre les chefs religieux et lui. Ils lui disent, mais par quelle autorité fais-tu ces choses? Et lui doit dire, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. La louange des enfants dans une caverne de voleurs, eh bien son cœur est rafraîchi par des enfants qui sont là. Et le psaume 8, verset 2 nous dit, « Par la bouche des petits-enfants et de ceux qui t'aident, tu as fondé ta force. » Le Seigneur va citer ce passage comme un encouragement. Il est là réalisant les prophéties. Quant au temple lui-même, psaume 26, verset 8, « Éternel, j'ai aimé l'habitation de ta maison et le lieu de la demeure de ta gloire. » Mais il regarde, il jette ses yeux sur tout et il s'en va. Il quitte pour la dernière fois le temple. Alors quand les nuages s'amoncellent, Jésus a été acclamé comme le Messie, comme le roi. Mais Jésus jette à vue humaine du désordre dans le temple. Et c'est vrai qu'il faut des fois se remettre dans le contexte pour bien comprendre les choses. Imaginez-vous si un jeune de 33 ans entrait dans votre local au moment du culte, qu'il renverse la table, il y a quand même des limites. C'est ce qu'ont ressenti les responsables du temple, en disant « quand même, quand même ». Et c'est cette période d'affrontement qui est fort intéressante. J'ai d'ailleurs une conférence sur ce thème, Jésus face à ses contradicteurs. Et donc, c'est le dernier affrontement, et c'est une sorte de combat qui se terminera par la mort. Entre autres, le Seigneur Jésus cite cette parabole que j'ai qualifiée d'assassine. Vous savez, c'est en Marc 12. Jésus se mit à leur dire en parabole, un homme planta une vigne, il environna d'une clôture. Il creusa une fosse pour un pressoir, il battit une tour, la loua des cultivateurs et s'en alla hors du pays. Et en la saison, il envoya un esclave aux cultivateurs pour recevoir des cultivateurs du fruit de la vigne. Mais eux, le prenant, le battirent et le renvoyèrent à vide. Et il leur envoya encore un autre esclave, et celui-là, ils lui mordirent la tête et le couvrirent d'outrage. Il en envoya un autre, et celui-là, ils le tuèrent, et plusieurs autres, battant les uns, tuant les autres. Ayant donc encore un unique fils bien-aimé, il leur envoya. Lui aussi, le dernier, en disant « ils auront du respect pour mon fils ». Mais ces cultivateurs-là dirent entre celui-ci et l'héritier « venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous ». Et l'ayant pris, ils le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Que fera donc le maître de la vigne? Il viendra et fera périr les cultivateurs et donnera sa vigne à d'autres. N'avez-vous pas même lu cette écriture, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée? Celle-là est devenue la maîtresse pierre du coin. Elle est de par le Seigneur, et elle est merveilleuse devant nos yeux. Et ils cherchaient à se saisir de lui, bien sûr pour le tuer. Le Seigneur va se référer lui-même donc au psaume 118. Et il nous est dit, ils comprirent qu'il avait dit cette parabole contre eux. Autrement dit, ils sont de ceux qui ont rejeté les esclaves que le maître de la vigne avait envoyés. Et ce sont eux qui vont aussi rejeter le Messie. Alors là, ils ne supportent plus. Ils disent là, ça dépasse quand même les limites maintenant. Déjà dans le temple, maintenant, nous allons être détruits. Mais pour qui finalement se prend-il? Après avoir rencontré toutes les classes du peuple, parmi les dirigeants, à savoir les anciens, les pharisiens et les sadducéens, le Seigneur leur ferme la bouche. Mais il va leur poser une dernière question. Il leur dit, si vous voulez réellement savoir, il ne le dit pas, mais c'est ce que ça veut dire. Et nous lisons en Matthieu 22, les pharisiens étant rassemblés, Jésus les interrogea, disant, que vous semble-t-il du Christ? De qui est-il le Fils? Oui, si vous permettez, une petite question, une dernière. Ils lui disent de David. Il leur dit, comment donc David, en esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Disant le Seigneur, et Dieu a dit à mon Seigneur, le Messie, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. Et il cite encore une fois un psaume, le psaume 110. Si donc David l'appelle le Seigneur, comment est-il son fils? Dites-moi, est-ce que vous pouvez me donner une petite explication? C'était tellement évident qu'ils ne savent que répondre, et d'ailleurs il nous est dit au verset 46 de Matthieu 22, et personne ne pouvait lui répondre un mot, et personne depuis ce jour-là n'osa plus l'interroger. L'autorité de Jésus pour répondre à la question qu'il s'avait posée au début, lorsqu'il est entré dans le temple, venait de son identité. Il était le Messie. Sur le plan humain, son activité était déplacée. Rentrer dans le temple, tout renverser, prétendre être le Messie, soit c'était un gros mensonge, soit c'était un blasphème, et il sera accusé de blasphème, soit c'était la vérité. Voilà le choix. Mais, vous savez, la parole de Dieu nous dit des hommes ont préféré les ténèbres, Jean 3, à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Si bien que, face aux œuvres évidentes du Messie, face aux paroles extraordinaires qu'il prononçait, jamais homme ne parla comme cet homme. Et encore lorsqu'il disait, je fais toutes les choses qui plaisent, il nous a dit alors plusieurs preuves là en lui, face à l'évidence de la vérité au milieu de l'erreur, face à la lumière qui est confrontée aux ténèbres, les hommes choisissent délibérément les ténèbres et ils vont comploter pour le mettre à mort. Psaume 31. Quels étaient les sentiments du Seigneur à un tel moment? Psaume 31. J'ai entendu les diffamations de plusieurs, la terreur de tous côtés. Quand ils consultaient ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais toi, ô Éternel, je me suis confié en toi. J'ai dit, tu es mon Dieu. Jésus, à ce moment-là, va réunir pour une dernière fois, pour la dernière Pâque, il va réunir ses disciples dans cette chambre haute. Il leur avait dit, après que nous, la Pâque, vous suivrez un homme qui porte une cruche et au lieu où il entrera, préparez là ce qu'il nous faut pour le repas. Comme vous pouvez le remarquer, en fond, j'ai mis des gros billets de 500 euros. Et peut-être vous vous demandez quel est le rapport entre les billets de 500 euros et la chambre haute. Eh bien, c'est que Jésus va laver les pieds de ses disciples. Et puis, ils vont passer à table. Mais derrière tout cela, dans les pensées de notre Seigneur, il y a le traître qui va le vendre. Et il le sait. Dès le début, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, l'un d'entre vous est un diable. Dès le début, il le sait. Il est là à table, mais le moment de la trahison approche. Et le Seigneur, avec un amour qui nous confond, arrive à faire ce que nous n'arriverions pas à faire, à être lui-même et à passer au-dessus des circonstances. Il célèbre la Pâque ensemble. Et puis néanmoins, il nous a dit qu'il fut un moment très angoissé. Et il lâche. L'un d'entre vous me livrera. Ouais. Il faut passer par des circonstances, non pas exactement les mêmes, vous le comprenez bien, mais quand même similaires. Être confronté des fois à la trahison, et je l'ai été, pour savoir l'intensité de la douleur. Quand on ne peut rien faire, vous ne pouvez rien faire face à une trahison. C'est très dur. Et il est angoissé, il dit l'un d'entre vous. Il fut troublé dans son esprit. Malgré tout, c'est à ce moment-là qu'il va instaurer la scène, frères et sœurs. Et là, je m'adresse à ceux qui aiment le Seigneur ici, et qui ne répondent pas au désir de son cœur. N'y a-t-il pas assez d'amour dans ce que le Seigneur a fait? Il a complètement... Il s'est mis de côté pour penser à nous. J'ai pensé à d'autres. Lorsqu'on est dans une situation critique, où on ne pense qu'à une chose, permettez-moi l'expression, sauver sa peau, je parle sur le plan humain, penser aux autres, est un acte extraordinaire. Si quelqu'un se noie, il ne pense pas à l'autre qui se noie à côté. Il pense à lui. Et là, le Seigneur Jésus a devant lui la mort, l'abandon, la trahison de Judas, le reniement de Pierre, l'abandon de tous les disciples, et c'est à ce moment-là qu'il dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Nous ne pouvons pas résister à une telle offre. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas le droit de résister. Aucune raison n'est valable pour résister à cela. Quelqu'un se sentirait-il indigne? Le problème n'est pas là. Jésus est digne. On se souvienne de lui. Et c'est la seule chose qu'il faut regarder. Alors, ayant dit ces choses, Jésus fut troublé dans son esprit. Jean 13. Et rendit témoignage et dit en vérité, je vous dis que l'un d'entre vous me livrera. Seigneur, lequel est-ce? Jésus répond, c'est celui à qui moi je donnerai le morceau après l'avoir trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donne à Judas Iscariote, fils de Simon. Vous avez sur la droite la représentation d'instruments datant de l'époque. Et c'est avec des ustensiles semblables à cela que la Pâque a été célébrée. Et alors vient une des déclarations du psaume 41 qui prennent tout leur relief. Verset 9, « Mon intime ami aussi, en qui je me confiais, qui mangeait mon pain, a levé le talon contre moi. » Jésus sort, va à Gethsémané. Et là, il y a un combat douloureux. Son âme fut saisie de tristesse jusqu'à la mort. C'est le combat, l'agonie en grec, l'agonie en grec, c'est là qu'est le combat. C'est être fait péché, comme dit le poète, sous des yeux trois fois saints. Ou alors, remonter libre dans la gloire, une gloire qui lui appartenait, et à laquelle il avait droit en tant qu'homme parfait, ayant pleinement glorifié Dieu dans un marche. Il est là. Par trois fois, il fait monter devant son père sa supplique instant, « Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, sans que je la voie. » Mais il a ajouté, « Que ta volonté soit faite et non la mienne, c'est alors que soumettant sa volonté parfaite d'homme à la volonté parfaite de Dieu, selon l'expression du même poème, l'amour triompha et marcha au sacrifice. » Psaume 55, « Mon cœur est dans l'angoisse, au-dedans de moi, et des frayeurs mortelles sont tombées sur moi. La crainte et le tremblement sont venus sur moi, et un frisson de terreur m'a couvert. » Psaume 102, verset 1, « Éternel, entends ma prière, et que mon cri vienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de la détresse, incline vers moi ton oreille. Au jour où je crie, hâte-toi, réponds-moi. » Et enfin la victoire du psaume 16, versets 10, 11 et 11, « Car tu n'abandonneras pas mon âme au Shéol, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption, tu me feras connaître le chemin de la vie, ta face est un rassasiement de joie, et il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Nous avons cité hier ces versets de Hébreux 12, à cause de la joie qui était devant lui, il a enduré la croix, ayant méprisé la honte. Combien pour cet homme ? Pendant ce temps, Judas s'est rapproché des pharisiens. Et on peut quelque peu imaginer ce terrible entretien. Combien vous me donnez pour cet homme ? 20 pièces d'argent ? 20 pièces d'argent, on aura 50, je vous le dis. Ah ben non. Écoutez, 30. Judas, écoute, c'est notre dernier prix. 30. D'accord. Que représentent ces 30 pièces d'argent ? Eh bien, 30 cycles, c'est le prix d'un esclave, et ça représente 7200 euros, c'est-à-dire une voiture d'occasion, c'est le prix qu'a été évalué le Fils de Dieu, créateur des cieux et de la terre, c'est ce prix-là, une voiture d'occasion. Et vous avez ici les pièces qui ont été utilisées par les pharisiens, par les responsables du temple, pour payer Judas. Je ne peux pas vous le démontrer maintenant, ce n'est pas le sujet. Alors, Matthieu 26, que voulez-vous me donner ? Et moi, je vous le livrerai et lui comptèrent 30 pièces d'argent. Psaume 55, ce n'est pas un ennemi qui m'a outragé, alors je l'aurais supporté. Ce n'est point celui qui me hait, qui s'est levé orgueilleusement contre moi, alors je me serais caché de lui. Mais c'est toi, un homme comme moi, mon conseiller et mon ami. Nous avions ensemble de douces communications. Nous allions avec la foule dans la maison de Dieu. Et encore le psaume 27, versets 2 et 12. Quand les méchants, mes adversaires et mes ennemis se sont approchés de moi pour dévorer ma chair, ils ont bronché, ils sont tombés. Et nous nous rappelons cette scène à la fin de Gethsémané, en Jean 18, lorsque Judas arrive avec les soldats pour prendre Jésus, il baise le Seigneur. Le Seigneur dit, ami, pourquoi es-tu venu ? Et puis il leur dit, mais qui cherchez-vous ? Nous cherchons Jésus. Et il dit, c'est moi. Et ils tombent à terre, les méchants ont bronché et sont tombés. Réalisation du psaume 27e. Jésus est donc emmené tout d'abord dans la maison de Caïphe, où il rencontre Anne, le beau-père, puis Caïphe. De là, il va être livré à Pilate. Pilate va l'envoyer au roi Hérode, Hérode va le renvoyer à Pilate, qui va finalement le condamner. Et j'ai appelé cette diapositive la coalition des chefs, et j'ai été très touché en étant à Jérusalem il y a quelques années. On trouve dans une même pièce, ici, l'ossuaire de Caïphe. Et on a retrouvé à Césarée cette pierre, Tiberium Pontius Pilatus, préfet de Judée. Donc nous avons la preuve historique de l'existence de Pilate. Pilate et Caïphe dans une même pièce au musée d'Israël. Et ça a été très émouvant pour moi parce qu'il y avait non seulement Caïphe, il y avait non seulement Pilate, et un peu plus loin, vous avez derrière une petite vitrine la cheville d'un homme qui a été crucifié avec le clou dedans. Bien sûr, ce n'est pas notre Seigneur, mais qu'importe. Vous vous rendez compte au niveau de l'émotion, ces noms, tout ce qu'ils évoquent pour nous, et finalement, j'ai vu le clou romain qui était certainement le même que celui qui a transpercé notre Seigneur. Alors je me suis arrêté un moment dans la visite. Il y avait beaucoup de choses qui tourbillonnaient dans ma tête. Jésus est donc ramené à Pilate et les chefs religieux vont dire « Mais si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'eussions pas livré. » Un malfaiteur. Acte 10 dit « Il est allé de lieu en lieu. » Faisant le bien. Lui, le bienfaiteur, est accusé d'être un malfaiteur, et encore, on lui préfère un meurtrier. Et on peut croire que Pilate, qui voulait le relâcher, a pris le plus hideux des prisonniers pour que la foule revienne à la raison. Il la savait manipuler par les chefs religieux. Alors, le plus hideux des prisonniers, un meurtrier, et Jésus l'innocent. Qui voulez-vous que je vous relâche ? Dire Barabbas. Barabbas serait, c'est l'honneur de dire fils du père aussi. Le fils du père, vous avez pour père Satan, ou le vrai fils du père. Relâche-nous Barabbas, et que ferais-je de Jésus appelé Christ ? Hôte, hôte, crucifié. Voulez-vous que je vous libère le roi des Juifs ? Et c'est la traduction donc de Chouraki. Ils vociférèrent donc de nouveau, non, pas lui, mais Barabbas. Quels étaient les sentiments de notre Seigneur dans de tels moments. Psaume 38, versets 13-14, « Et moi, comme un sourd, je n'entends pas. Et comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Je suis devenu comme un homme qui n'entend point dans la bouche duquel il n'y a pas de réplique. » Jésus, condamné au terrible supplice de la crucifixion, va être d'abord flagellé. Ayant fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Et vous avez devant vous des fouets de l'époque, ça c'était le flagrum, mais il y en avait qui n'avaient pas de boule de plomb au bout. Et vous avez la colonne, qui se trouve, je crois, à Rome actuellement, de 70 cm de haut, qui a été retrouvée dans ce qu'on pense être la maison de Pilate, et qui peut être celle à laquelle notre Seigneur a été attaché. Et vu qu'elle était basse, on devait courber le dos pour recevoir les coups de fouet. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé leur long sillon. Psaume 129, verset 3. Jésus va être crucifié. Et comme nous le chantons, entre deux malfaiteurs, dans de saintes douleurs, Jésus est mort, mais juste seul des trois, en subissant la croix, il a de l'homme fort, brisé l'effort. Psaume 22, verset 16, « Des chiens m'ont environné. Une assemblée de méchants m'a entouré. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compterai tous mes os. Ils me contemplent, ils me regardent. Ils partagent entre eux mes vêtements et sur ma robe, ils jettent le sort. » Et vous avez une représentation, un dessin si vous voulez, mais la réalité devait ressembler à cela, de la 10e légion, dont vous avez sur la gauche l'emblème, et ici une marque dans la pierre. Oui, tout cela est historique, tout cela s'est passé. Notre Seigneur est allé jusqu'à la mort, selon Philippiens 2, et la mort même de la croix. Nous aimons ainsi le contempler, tout d'abord, dans les trois premières heures, où il a rencontré toute l'injustice humaine, où il a souffert de la part des hommes, il a souffert pour son Dieu. Il a souffert pour son Dieu. Les hommes lui disaient, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et c'est ce que nous trouvons aussi dans Psaume 22. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Et comme le dit si bien Fernand le Grand, au défi de descendre, il opposa un silence qui voulait dire, je ne puis descendre sans cesser d'être ce que toujours je fus, obéissant à Dieu, je ne puis descendre. Parce que si je descendais, je cesserais de t'aimer, je ne puis descendre. Car si ma souffrance ne devient pas plus grande que ton péché, je ne pourrais être sauvé. Psaume 42, verset 10, mes adversaires m'outragent, comme un brisement dans mes os quand ils me disent tout le jour, où est ton Dieu? Psaume 69, verset 20, j'ai attendu, et cela nous touche, que quelqu'un eut compassion de moi, mais il n'y a eu personne. Et des consolateurs, mais je n'en ai pas trouvé. Où était Pierre, le renégat? Où étaient les disciples qui l'avaient accompagné? Il nous a dit, tous le laissèrent et s'enfuirent. Psaume 22, verset 6, mais moi je suis un ver, et non point un homme, l'opprobre des hommes et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, ils hochent la tête. Ils se confient à l'Éternel, qui le fasse échapper, qui le délivre. Car il prend plaisir en lui. Et puis, il y a eu les trois heures encore plus douloureuses qui sont celles de l'abandon. Si Jésus, dans les trois premières heures, avait supporté de la part de l'homme ses injustices, cet abandon, pendant les trois dernières heures, Jésus se tourne vers celui qu'il a toujours honoré. Et là, le ciel fut fermé à sa prière. Ce sont les heures d'abandon, ce sont les heures d'expiation. Jésus est la porteur de nos péchés, de nos iniquités. Psaume 38, verset 4, « Mes iniquités, peux-tu dire par la voix prophétique, ont passé sur ma tête comme un pesant fardeau. Elles sont trop pesantes pour moi. » Et c'est là que nous devons dans nos cœurs chacun dire, « Seigneur, ce ne sont pas tes iniquités, ce sont mes iniquités. Oh, comme ils ont pesé sur toi, Seigneur. » Dans cette heure sombre, l'abandon, l'angoisse et l'effroi de nos péchés sans nombre. Psaume 10, verset 1, pourquoi Éternel, te tiens-tu loin, te caches-tu au temps de la détresse? Psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? la dette étant payée. Jésus dit « C'est accompli ». Il pousse un grand cri, baisse la tête et remet sa vie. Jésus est mis dans un tombeau de riches qui pouvait ressembler à celui-là. Psaume 22, verset 15, « Tu m'as mis dans la poussière de la mort ». Chers frères et sœurs, il faut que nous prenions le temps à travers les psaumes, les évangiles ou ailleurs, de nous arrêter au pied de la croix. Cette interrogation, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, doit recevoir une réponse de chacun de nos cœurs. Tu as été abandonné pour que je ne sois jamais abandonné. Et j'aime beaucoup ce cantique que je répète de nombreuses fois. Seigneur, ton amour me révèle tes mystères. Mon cœur a tremblé devant ce que ton cœur endura quand je te vis mourir. On a mis la croix en moi. Ton amour brisa toute barrière. Une personne jeune, une personne âgée, qui n'a pas réellement donné sa vie à Jésus-Christ, le fasse. On ne peut pas donner à moitié autre chose. C'est pas possible. Il nous a tout donné. Il nous veut tout entier. Il faut que la croix soit un lieu de délivrance pour nous. Le changement entre un homme ancien et un homme nouveau. Paul disait, le Christ m'a aimé, c'est lui-même pour moi. Oui, nous le chantons quelquefois. Abandonné pour moi sur le bois du calvaire, d'amertume abreuvée pour mon forfait puni, tu subis du péché le châtiment sévère. Seigneur, tu m'as sauvé, que ton nom soit béni. Le prophète Esaïe dit, certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme battu, frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais tout ne s'arrête pas là, donc Jésus est entré dans la mort, mais il en est sorti victorieux le troisième jour. C'est donc la résurrection. Il y a une différence entre les religions et le christianisme. Toutes les religions ont un fondateur, mais toutes les religions ont un fondateur qui est mort. Et on peut visiter des tombeaux. Par contre, Jésus-Christ nous a laissé un tombeau vide. Et nous savons par l'Écriture qu'il y a beaucoup de preuves de la véracité de la résurrection. Je vous en citerai une qui est quand même intéressante. Si vous lisez le témoignage des Écritures et donc des Évangiles, vous allez vous rendre compte que les disciples n'avaient jamais pu, n'ont pas pu, aller jusqu'au bout dans leur témoignage. Puisque, je l'ai déjà dit, un le trahit, Pierre le renie, tous l'abandonnèrent et s'enfuirent. En langage clair, ils n'ont pas pu témoigner que Jésus était le Messie, et contrairement à la prétention de Pierre, ils n'ont pas donné leur vie pour lui. Nous irons avec toi jusqu'à la mort. Non. Et voilà que Jésus meurt, que Jésus est mis au tombeau, non pas par ses disciples, mais par d'autres, et Jésus ressuscite. Il apparaît aux siens, qui ne le croient pas, ne le croient pas. Disait Marc 16, il leur reprocha leur incrédulité. Non seulement ils ne croyaient pas à sa résurrection, mais ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Il leur reprocha leur incrédulité. Et ces hommes vont donc partir, après la Pentecôte, dans le monde entier, pour dire que Jésus était ressuscité. Il était ressuscité, Jésus. Montrez-le-moi. Alors il est monté au ciel. Nous l'avons vu, mais vous ne pouvez pas le voir. Alors, c'est trop facile, ça. Alors maintenant, vous réfléchissez. Ces hommes, qui n'avaient pas eu le courage de témoigner pour un Christ vivant, en chair et en os à côté d'eux, vont avoir la force de partir dans le monde, d'annoncer que ce Jésus qui était mort était ressuscité, et pour cela, ils vont supporter les injures, ils vont supporter des tortures, l'emprisonnement et la mort. Apparemment, tous les apôtres étant morts martyrs. Et une loi de la psychologie dit que si un homme est capable de mourir pour une cause qu'il pense être juste, dans le kamikaze, un homme n'est pas capable de mourir pour ce qu'il sait être pertinemment un mensonge. C'est pas possible. Donc Jésus est réellement ressuscité. L'Écriture en rend témoignage, et déjà le psaume 68, verset 20, disait « Notre Dieu est un Dieu de salut, et c'est à l'Éternel, le Seigneur, de faire sortir de la mort. » Psaume 30, verset 3, « Éternel, tu as fait remonter mon âme du Shéol. Tu m'as rendu la vie d'entre ceux qui descendent dans la fosse. » Je pense que devant la grandeur de celui qui est mort mais qui est ressuscité, nous pouvons tous ensemble nous lever et chanter ce beau cantique « À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. » Passe 40 jours avec ses disciples, et puis il monte au ciel. Et à ce moment-là, disons, le psaume 24, dans un sens réaliste, verset 7, porte, élevez vos têtes et élevez-vous, portails éternels, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel. Jésus monte au ciel et il est là glorifié. Vous avez ici le trône ecclésiastique du pharaon Toutankhamon, avec son marchepied sur lequel figurent les ennemis de son royaume. Vous avez 9 peuples qui sont représentés, et donc la Syrie, la Libye, le Soudan, et d'autres. Alors, cela nous fait bien sûr penser à ce verset du psaume 110, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. » Psaume 110, verset 1. Et encore en 1 Corinthiens 15, 25, il faut qu'il règne. Il s'agit de Jésus. Jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Pendant cette période, le salut est annoncé, le salut est offert. Et déjà, les psaumes nous en disent quelque chose. Par exemple, que le salut ne peut être par les œuvres. Psaume 49, verset 6. Un homme ne pourra en aucune manière racheter son frère, ni donner à Dieu sa rançon, car précieux est le rachat de leur âme, il faut qu'il y renonce à jamais. Psaume 32, Dieu peut ne pas tenter l'iniquité. David en avait déjà fait l'expérience. Bienheureux celui dont la transgression est pardonnée et dont le péché est couvert. Bienheureux l'homme à qui l'Éternel ne compte pas l'iniquité. Troisièmement, la responsabilité de diffuser cette bonne nouvelle. Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'au bout de la terre. Psaume 95, versets 7 à 11. Car c'est lui qui est notre Dieu, et nous, nous sommes le peuple de sa pâture et des brebis de sa main. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Le message reste le même dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, et ce message est vrai pour vous, pour nous, pour moi, aujourd'hui, aujourd'hui, si d'une manière quelconque vous entendez sa voix, sur un point ou sur un autre, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus, selon Éphésiens 4, reçoit des dons. Étant monté en haut, il a emmené captive la captivité, Éphésiens 4, verset 8 à 10, et a donné des dons aux hommes, pour qu'ils soient montés qu'est-ce. Sinon qu'il est descendu dans les parties inférieures de la terre, celui qui est descendu est le même que celui qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux, afin qu'il remplisse toutes choses. Psaume 68, verset 18 à 20, tu es monté en haut, tu as emmené captive la captivité, tu as reçu des dons dans l'homme et même pour les rebelles, afin que Jah, Dieu, ait une demeure. Béni soit le Seigneur qui, de jour en jour, nous comble de ses dons, le Dieu qui nous sauve. Il est aussi notre avocat et notre sacrificateur. Nous savons que dans l'ancienne alliance, le sacrificateur était le médiateur entre Dieu et les hommes, représentant les hommes devant Dieu et représentant Dieu devant les hommes. Eh bien, quant à notre Seigneur, quant au Messie, psaume 110, verset 4, l'Éternel a juré, il ne se repentira point, tu es sacrificateur, pour toujours, non pas selon l'ordre d'Abraham, mais selon l'ordre de Melchisédek. Et cela fait allusion, bien sûr, à Genèse 14, où nous voyons Abraham qui revient de la victoire contre les rois, et il rencontre un homme, sans père, sans mère, sans généalogie. Et il lui donne la dîme de tout. Et nous voyons ce double office de la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek aussi. Il est dit « Béni soit Abraham », c'est la bénédiction qui vient de Dieu par l'intermédiaire de Melchisédek, « Béni soit Abraham ». Et « Béni soit le Dieu très haut », bénédiction de la part d'Abraham vers Dieu. Vous voyez, l'office de sacrificateur, il purifie, comme on le dit quelquefois, l'iniquité de nos saintes offrandes. Alors, voilà une œuvre qui est faite. Une œuvre qui est accomplie. Dieu a montré qu'il acceptait l'œuvre de Jésus-Christ en le ressuscitant d'entre les morts, en le faisant asseoir à sa droite. Nous avons maintenant un Sauveur ressuscité, glorifié, qui va revenir instaurer son royaume, mais ça, c'est après la pause. Nous en sommes donc à la dernière partie, la gloire future du Messie. Le psaume 104, verset 31 nous dit « La gloire de l'Éternel sera à toujours. » Et cette gloire partira d'un lieu géographique particulier, savoir Sion. Psaume 132, « L'Éternel a choisi Sion. Il a désiré pour être son habitation. » La montagne de Sion, c'est celle qui est juste derrière le temple. Je m'étais posé la question, pourquoi Sion, pourquoi le mont Morija, etc. Et puis, lorsqu'on va à Jérusalem, on se rend compte que c'est beaucoup plus simple que ce que l'on pense. C'est-à-dire, c'est une même montagne, mais là c'est Sion, et puis en dessous, c'est Morija. Mais c'est le même ensemble, donc on va dire, pour faire simple, que c'est le même lieu. Et en 1 Roi 9, verset 3, c'est Dieu qui parle à Salomon, lors de la dédicace du temple, il lui dit « J'ai entendu ta prière et la supplication que tu as faite devant moi. J'ai sanctifié cette maison que tu as bâtie pour y mettre ton nom à jamais. Et mes yeux et mon cœur seront toujours là. Vous voyez ici, donc, au centre, le dôme du rocher. C'est ici, Morija. Et là aussi, on peut se poser la question, quels seront les sentiments de Dieu à l'heure actuelle, lorsqu'il voit une mosquée, même si le dôme du rocher n'est pas exactement une mosquée, vous avez la mosquée qui est ici. Mes yeux et mon cœur seront toujours là. Et la question se pose, question redondante dans les psaumes, jusqu'à quand? L'esplanade du temple est devenue, dans le vocabulaire courant, l'esplanade des mosquées. Psaume 74, jusqu'à quand, ô Dieu? L'adversaire dira-t-il des ouvrages? L'ennemi méprisera-t-il ton nom à jamais? Et la réponse va être le jugement. Le jugement va s'abattre. L'éternel Dieu vient. Il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Psaume 93, verset 13. Notre Dieu viendra. Et il ne se taira point. Un feu dévorera devant lui. Psaume 50, verset 3 à 6. Et nous trouvons alors la suite du psaume 118 que j'ai cité plusieurs fois. Et nous comprenons maintenant le sens de ces versets. Toutes les nations m'avaient environné au nom de l'Éternel, certes je les ai détruites. Et nous savons par le Nouveau Testament et par le livre de l'Apocalypse que Jésus-Christ va venir. Je ne parle pas ici du retour de Jésus-Christ pour son Église. Les psaumes n'en parlent pas. Mais de son retour en gloire pour instaurer son royaume. Et nous trouvons dans Apocalypse, chapitre 19, cette description. Je vis le ciel ouvert. Et voici un cheval blanc. Et celui qui est assis dessus, appelé fidèle et véritable. Et il juge et combat en justice. Et ses yeux sont une flamme de feu, et sur sa tête il y a plusieurs diadèmes. Et il porte un nom écrit que nul ne connaît que lui seul. Et il est vêtu d'un vêtement teint dans le sang. Et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs vêtus de fin lin, blanc et pur. Et une épée aiguë à deux tranchants sort de sa bouche afin qu'il en frappe les nations. Et lui les pétera avec une verge de fer. Et lui foule la cuve du vin de la fureur de la colère de Dieu le Tout-Puissant. Et il a sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit. Roi des rois et seigneur des seigneurs. Et je vis un ange se tenant dans le soleil, et il cria à haute voix, disant à tous les oiseaux qui volent par le milieu du ciel, « Venez, assemblez-vous au grand souper de Dieu, afin que vous mangiez la chair des rois, et la chair des filiarques, et la chair des puissants, et la chair des chevaux, et de ceux qui sont assis dessus, et la chair de tous, libres, esclaves, petits et grands. » Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées assemblées pour livrer combat à celui qui était assis sur le cheval, et à son armée. Et il nous est dit que la bête fut prise, le faux prophète qui était avec elle fut pris aussi, et ils furent tous deux jetés vifs dans l'étang de feu embrasé par le soufre, et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle sortait de sa bouche, et tous les oiseaux furent rassasiés de leur chair. Toutes les nations m'avaient environné, au nom de l'Éternel, certes, je les ai détruites. Le Messie va revenir instaurer son royaume. Et il sera, selon l'expression de Thessaloniciens, admiré dans les siens. Enfin, celui qui, selon le psaume 126, verset 6, allait en pleurant, portant la semence qu'il répandait, va revenir avec chant de joie, portant ses gerbes. Le Messie va revenir instaurer son royaume. Et le psaume 72, verset 8 nous dit qu'il dominera d'une mer à l'autre mer, et depuis le fleuve jusqu'au bout de la terre. Il vient instaurer son royaume, il va faire luire sa splendeur. De Sion, perfection de la beauté, Dieu a fait luire sa splendeur. Un règne, celui du Messie, va être établi sur la terre, et notre Seigneur va être honoré de tous. Psaume 29, versets 10 à 11. L'Éternel s'assied sur les flots. L'Éternel s'assied comme roi toujours. L'Éternel donnera force à son peuple. L'Éternel bénira son peuple par la paix. Nous avons déjà vu qu'en 1 Corinthiens 15, nous avons cette expression « il faut qu'il règne ». Il faut qu'il règne. Celui qui a été abaissé, celui qui a été humilié, celui qui a été rejeté, celui qui a été mis à mort, il faut que celui-là règne. Et j'aime énormément cette expression un peu bizarre, peut-être pas très française, mais la version Darby, en Ésaïe 11, « Son repos sera gloire ». Écoute, cela me plaît. Je ne sais pas si ça vous plaît aussi. « Son repos sera gloire ». Alors, lorsqu'on nous parle de telles choses, que pour les enfants, vous voyez ici, les petits-enfants jouent avec les lions, eh bien, de nos cœurs montent des fois les paroles de ce cantique. « Seigneur, quand sera-ce que ces temps heureux où luira ta face combleront nos voeux ?» C'est alors que nous nous souvenons de la prière de notre Seigneur, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, dans le ciel, sur la terre comme au ciel. Alors je vous propose maintenant, c'est dommage bien sûr qu'on ait tant de lumière, mais enfin ça n'y peut rien, ça serait plus joli s'il était plus tard, une visite accompagnée dans le royaume. Alors, pour commencer, je suis allé dans le prophète Ésaïe, bien sûr ce n'est pas un psaume, mais j'ai marqué que le prophète Ésaïe a bien voulu nous faire une petite introduction aux réalités quotidiennes du royaume, et je pense que les images suivantes vont intéresser les enfants, et pourquoi pas l'écran. Et le loup habitera avec l'agneau, et le léopard couchera avec le chevreau, et le veau et le jeune lion et la bête grasse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache pétra avec l'ours, leurs petits coucheront l'un près de l'autre, et le lion mangera de la paille comme le bœuf. Le nourrisson s'ébattra sur le trou de la spie, et l'enfant sevré étendra sa main sur l'antre de la vipère. On ne fera pas de tort, on ne détruira pas dans toute ma sainte montagne. Car la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. Et avant d'aller plus loin, je pense que nous pouvons nous lever pour chanter ce beau cantique de sa divine présence. Jésus remplira l'univers, il étendra sa puissance sur tous les rivages des mers.
De sa divine présence, Jésus remplira l'univers. Thank you.
exalté, ô Fils du Père, l'hymne des cieux et de la terre montera dans le sanctuaire à toujours. Psaume 111, je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur dans la compagnie des hommes droits et dans l'assemblée. Et pour terminer ce panorama sur les psaumes, on ne peut pas mieux faire que de lire le psaume 150 qui clôture les cinq livres des psaumes. Louez Dieu dans son saint lieu. Louez-le avec le son retentissant de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et la danse. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Louez le Seigneur, louez Jah. Louez le Seigneur. Voilà, frères et sœurs, nous avons parcouru un petit chemin ensemble, hein, et je voudrais vous citer une fois encore Luc 24. Il leur expliquait, c'est le Seigneur qui parle aux disciples d'Emmaüs, il leur expliquait dans les psaumes les choses qui le regardent, et leurs yeux furent ouverts, et ils reconnurent Jésus, et ils dirent entre eux, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait et lorsqu'il nous ouvrait les Écritures? Si à un moment vous avez vu quelque chose de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, si quelque chose a bougé dans votre cœur, si cela a ravivé votre espérance de son proche retour, si vous avez pu faire vôtre cette pensée déjà exprimée, Seigneur, quand sera-ce que ces temps heureux où luira ta face, combleront nos voeux ton Église? Crie, viens, Prince de paix, viens, Prince de vie, régner à jamais.